allons écouter un instant le père Alain. Et puis on reviendrait là.
Donc c'est ce que nous avons décidé d'appeler un contrepoint théologique, mais pas dans le sens d'une opposition théologique, mais dans le sens d'une un autre éclairage. La théologie a-t-elle un mot à dire relativement à cette identité de l'Europe ? Sans doute pas concernant les caractéristiques psychologiques, empiriques, telles que notamment M. Maillard a pu les développer là, avec sa compétence notamment journalistique, mais peut-être concernant l'enjeu des fameuses racines chrétiennes de l'Europe. Et donc je voudrais me concentrer sur ce point-là. Donc pour tenter une ébauche de réponse, donc je partirai de quelques repères théologiques, partant donc de l'économie de grâce que le Christ a introduite dans le monde. Par son incarnation et par l'œuvre de la rédemption, le Fils de Dieu a donné aux hommes de devenir enfants de Dieu, à travers la médiation de l'Église et de son économie sacramentelle. La grâce ne supprime pas la nature humaine, mais la purifie et la surélève jusqu'à une participation de la nature divine, comme dit saint Pierre dans son épître. Il en va ainsi de la personne humaine, renouvelée par la grâce dans le baptême et les autres sacrements. Il en va ainsi de la relation conjugale, élevée sacramentellement jusqu'à une participation à l'union du Christ et de l'Église, sans que les caractéristiques propres du mariage naturel en soient altérées, au contraire. Qui pourra fixer des limites à cette œuvre de grâce dans la nature humaine? Qui pourra dire où elle s'arrête? Se pourrait-il que le culturel et le politique soient imperméables à ces effets? La consécration de l'empereur chrétien, depuis Charlemagne jusqu'au bienheureux Charles d'Autriche, semblait dire la possibilité qu'une société entière, jusqu'au niveau le plus élevé de son pouvoir politique, soit introduite librement dans cette économie de grâce. Historiquement, l'Europe, sous l'influence des moines missionnaires et des évêques, s'est laissée gagner à la foi chrétienne au point de vouloir collectivement, du moins en principe, que tout dans les nations et dans les empires se confirme à l'évangile du Christ. L'Europe de surcroît se trouvait être cette famille de peuples, comme l'appelle le pape François pour l'Europe, providentiellement placée par leur géographie dans l'orbite rapprochée du lieu où Pierre et Paul ont rendu le témoignage suprême, à savoir Rome, siège du successeur de Pierre. C'est là donc dans ces peuples et nations que la capacité de l'Évangile à pétrir toute une société jusqu'en sa structure politique a pu donner son maximum d'effets visibles jusqu'ici. Au dire des papes, cette réalisation européenne aurait même été destinée, providentiellement, à communiquer au monde entier le bienfait d'une civilisation chrétienne en proposant un modèle non contraignant d'inculturation réussie. Quant à la séparation de principes de l'Église et de l'État instaurée par le Christ et revendiquée désormais avec force, elle ne commente pas pour autant que le mystère ecclésial doive être confiné à la sphère privée et donc exclu du bien commun dont le politique est censé prendre soin. Il me semble que l'enjeu contemporain des racines chrétiennes de l'Europe se situe là. L'Église peut supporter que les gouvernants ne lui donnent plus la priorité, l'exclusive d'une religion instituée. Mais sa mission divine lui fait réclamer le droit pour tout homme d'avoir accès à son message et à ses grâces. L'Église et sa mission ne peuvent donc être enlevées du bien commun de l'Europe, ce qui exige une certaine reconnaissance par ses autorités civiles. des voix mettent aujourd'hui en garde contre le danger d'une fausse Europe, censée nous être imposée insidieusement comme un progrès. Parler de fausse Europe, c'est le cas de la déclaration de Paris auquel Sébastien fait allusion, c'est parler d'une fausse identité. Alors, l'identité d'un peuple, pour être préservée, suppose une prise de conscience par ce peuple de sa richesse historique, dans toute cette Europe du passé. Un véritable progrès culturel supposera toujours, nous dit Newman, cardinal Newman, de préserver les acquis antérieurs dans la nouvelle synthèse socioculturelle. Sans quoi il y aura, comme il l'appelle, perversion du type et non plus identité. Si donc le christianisme est devenu historiquement essentiel à l'esprit européen, l'exclure et le remplacer par une idéologie étrangère, le cas échéant, c'est perdre l'identité européenne et l'on pourra parler d'une fausse Europe et d'un faux progrès. Une affirmation de Robert Schuman, que vous aimez beaucoup, surprenante sous la plume d'un politicien français. Ah, on voit qu'effectivement on sépare très fort le domaine public et le domaine religieux, exprime un aspect de cette question. Elle est extraite de son ouvrage « Pour l'Europe » paru en 1963. « La démocratie, dit-il, sera chrétienne ou elle ne sera pas. Une démocratie antichrétienne sera une caricature qui sombrera dans la tyrannie ou dans l'anarchie. » Schuman semble avoir ici le raisonnement suivant. On peut regarder la démocratie comme une possibilité rendue enfin possible, après des siècles, par les progrès du christianisme et de la civilisation en Europe. Mais si l'on prétend désormais y maintenir la démocratie sans sa base chrétienne, cette démocratie sera elle-même comme fatalement dénaturée. Si j'interprète bien. Enfin, si l'Union européenne est de nature démocratique, il reste que l'influence du Christ sur elle est l'affaire de tous les chrétiens. D'où l'insistance du pape François dans ses discours européens à prendre au sérieux la lettre à Diognète. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde, dit cette lettre. Si l'âme est la vie du corps, tant qu'il y aura des chrétiens, pourrait-on en conclure, il y aura de l'espoir pour l'Europe. Merci.